Patrick Edemond, bonjour.
Bonjour.
Ou dois-je dire Monsieur le Président, bonjour.
On peut dire Monsieur le Président, bonsoir même, puisque je suis sûr que l'heure est à 18h. Quelque chose comme ça, la soirée approche et on a passé une formidable journée.
Alors, le calme avant la tempête du 2 décembre, date annoncée de la sortie du calendrier.
Une sortie française en tous les cas, parce que c'est un film produit par les Français et les Belges avec deux distributeurs différents. Et donc les distributeurs français ont décidé de sortir le film le 2 décembre parce que le film correspond à la période de Noël. C'est un film d'horreur de Noël, un conte de Noël horrifique. Et la Belgique sortira le film un peu plus tard, en 2021.
Ah oui. Alors le pitch, c'est l'histoire d'un calendrier de l'Avent qu'on offre à une ancienne championne de natation. Jusque-là, ça, c'est sympa.
Oui, mais ça a changé. Vous avez des vieux pitchs encore. Donc, c'est une ancienne danseuse devenue paraplégique et qui reçoit un calendrier de l'Avent dont les bonbons ont des pouvoirs un tout petit peu particuliers.
Donc, c'est beaucoup plus complexe que, finalement, le beau conte de Noël. Quoi,
oui, oui. Enfin, c'est le même type de... C'est le calendrier de l'Avent que tout le monde connaît et dont on se réjouit quand on en reçoit. Tiens, ce sont des chocolats. Tiens, ce sont des bières différentes. Tiens, ce sont des sachets de thé. Là, en l'occurrence, comme on est au cinéma, ce n'est ni bière, ni sachet de thé, ni chocolat. C'est des trucs what the fuck.
Alors, bon, il faut dire que vous nous surprenez toujours. Bon, que ça soit Dead Man Talking avec l'histoire d'un condamné à mort en passe d'être exécuté, que ça soit la station... pour la prise de pouvoir des machines, pour lesquelles on s'était vu à Talent à d'amis à Cannes 2017. Exactement. Et donc ce film-ci, vous parvenez à dormir correctement, Patrick?
Oui, parce que finalement, quel que soit le genre, là, c'est un film d'horreur, enfin un film, on va dire, c'est un thriller fantastique. Avant, c'était un film d'horreur, une comédie d'horreur, La Station. Avant, c'était plutôt un drame, une comédie dramatique. Quel que soit le genre, je prends toujours du plaisir à écrire. Il faut savoir qu'avant de devenir un film pour lequel les spectateurs vont s'émouvoir ou pas, pour lequel ils vont avoir peur, nous, on écrit ça, mais sans aucune peur, juste avec du plaisir. C'est le plaisir qui nous fait fonctionner, qui nous fait écrire. C'est le plaisir qui nous fait tourner, qui nous fait diriger les comédiens, qui nous fait monter ce film, qui nous fait travailler jour et nuit sur la musique. Et à la fin, des gens qu'on appelle les spectateurs, et parfois nous avons la grande chance, nous, en tant que réalisateurs, d'être aussi les spectateurs de nos propres films, on a peur. On a envie de rire, on est angoissé, on souffre avec les personnages, on rit avec eux. C'est seulement à la fin qu'on commence à avoir vraiment le type d'émotion que le public lui éprouve. Donc moi, c'est que du plaisir du début à la fin. Donc la réponse est oui, je dors très bien.
Alors quelle fut l'idée de base, le départ de ce calendrier?
Eh bien, c'est aussi simple que de voir une personne, membre de ma famille, de ma belle famille, fascinée, heureuse qu'on lui offre un calendrier de l'Avent. Et je me dis, tiens, ce serait intéressant de transformer toute cette espèce de féerie de Noël gentillette en féerie de Noël gore, sans être un film slasher. Mais voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire d'un événement heureux, un événement simple, un rituel de Noël, de la nativité. Il y a tout ce qu'il faut comme ingrédient pour en faire un truc un tout petit peu qui fait peur. La présence de la Bible, du Christ, les miracles, l'Allemagne. Il faut savoir que les calendriers de l'Avent prennent leur source en Allemagne. C'était inventé en Allemagne. J'avais là les ingrédients parfaits pour faire un film d'horreur. L'Allemagne, ça fait peur.
C'est un peu autobiographique?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, il n'y a rien d'autobiographique dans ce film.
Point.
Non.
Alors bon, grand maître de l'impro, quand vous passez de l'autre côté de la caméra, est-ce que vous laissez place à cette improvisation?
Non, aucune. Les comédiens sont priés de dire le texte, mais ça n'empêche pas que... le texte n'est pas un ennemi. Quand il est OK, que les comédiens le connaissent par cœur, c'est presque un filet, c'est la base. C'est un jeu d'équilibriste, être acteur. C'est sur le fil du rasoir constamment, et c'est-à-dire que la rampe à laquelle on peut se tenir parfois, le sol sur lequel on marche, c'est le texte, en fait. Et si on considère que ce n'est pas un ennemi, si on le connaît, qu'il suffit de le dire... Eh bien, les acteurs prennent par moments des tournures merveilleuses et réinventent partout où je ne m'attendais pas. On s'attend souvent à ce qui change dans le texte, c'est pas toujours bienvenu. Mais pour tout le reste, leur imagination n'a pas de limite et je les laisse faire beaucoup de choses. Dans le cadre de la caméra, évidemment, ça n'a rien qu'ils soient formidables derrière la caméra, il faut qu'ils soient formidables devant la caméra. Mais pas d'improvisation, non.
Alors, Eva, votre personnage principal, c'est Génie de Rouen.
Oui.
Comment avez-vous trouvé cette perle?
Ce sont des castings. Hein. Énormément de personnes ont été vues pour tous les rôles d'ailleurs. Et il faut savoir que je ne la connaissais pas d'avant, donc ce n'est pas une question de famille, etc. Elle émerge, elle sort du lot d'un casting qui m'a fait rencontrer des dizaines de comédiennes de cet âge-là. a été merveilleuse et ça ne faisait aucun doute. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Et Honorine Magnier ?
Même chose, Honorine, c'est même une histoire un peu... Il y a même une petite anecdote derrière, la présence d'Honorine, parce qu'Honorine fait aussi l'audition pour le rôle d'Eva. Je l'arrête immédiatement en lui disant que, à mon sens, ce n'est pas la peine d'aller plus loin dans le casting pour le rôle d'Eva. Par contre, je lui dis... Donc là, il y a une grosse déception chez la comédienne, mais je lui dis, par contre, je voudrais vous essayer dans le rôle de Sophie. Elle le fait, et... Donc là, tout de suite, elle, sans connaître le texte réellement, elle prend un peu de temps pour le lire, etc. Et elle me joue ce personnage comme je veux qu'il soit. Et je lui dis, le jour même de son audition, voilà, le rôle est pour vous. La productrice qui était là à ce moment-là me dit après, attention, c'est pas comme ça qu'on dit. Il faut attendre, il faut dire, on vous rappellera, il faut les voir tous. Je dis, on peut s'épargner de voir les personnes qu'on devait voir demain, les prévenir par correction, mais dans mon esprit... C'est fait, ce sont des évidences. Et c'est ça pour chacun des personnages.
On parlait musique tout à l'heure. Oui. En plus, dans ce genre de film, la musique est essentielle, ni trop, ni trop peu. Alors vous avez fait appel à Thomas Cousinier et Frédéric Cosmagnan.
Oui.
Expliquez-nous un petit peu.
Alors, non seulement la musique ne doit pas en faire trop ni trop peu, mais malheureusement, pour la plupart des compositeurs, la musique vient souvent à la fin de la chaîne de production, quand il ne reste plus beaucoup d'argent. Et donc, je crois que. Tous ces musiciens, compositeurs qui ont un talent inouï doivent être fatigués d'entendre. On n'a plus beaucoup de budget. Il faut faire ça vite parce qu'on n'a plus le temps. Donc, sérieusement, je suis sûr qu'on a dû leur dire ça, mais la grande qualité de ces personnes-là, c'est qu'elles sont mais d'une création inouïe et elles ont pu, par exemple, composer. On est à plus d'une heure de musique. Tout ça a été composé avec talent. En un mois, avec on te le fait écouter, mes retours, ils reprennent, ils retravaillent, tout ça en plein confinement, ils étaient à deux endroits différents. C'était des monstres de travail, des monstres de talent, et j'avais exactement ce que je voulais, tout en étant des vraies musiques, une vraie musique de film, c'est-à-dire certains logiciels nous permettent d'appuyer sur une touche et créer toute une ambiance un peu anxiogène. Eux, sont parvenus à faire ça, mais avec un orchestre, des violons, des violoncelles, des contrebasses, une orchestration. Par moments, leur composition musicale devient du décor sonore, le sound design et la musique se mélangent. Ils se sont super bien entendus avec les personnes du sound design en Belgique. Donc ça a été une collaboration parfaite. Je suis tombé non pas sur des personnes adéquates, mais sur la perle, vraiment, ceux qui ont rendu possible... Il n'y aura pas d'excuses dans mon esprit, parce que je crois que parfois, quand on n'a pas une bonne musique, à tort ou à raison, on peut dire oui, mais on n'a pas eu beaucoup de temps ni beaucoup d'argent. Effectivement, nous avons eu peu de temps et ils n'ont pas été les personnes, ils ne se sont pas enrichis de millions. En plus, ils sont deux, ils ont dû partager. Mais je ne peux pas utiliser cette excuse parce qu'ils m'ont tout donné, comme si j'avais tout le temps, comme si j'avais tout l'argent du monde. Donc pour moi, j'ai utilisé les deux Hans Zimmer français.
Voilà.
Carrément.
Alors le film donc est coproduit en Belgique par Fracas.
Oui.
Alors comment vous avez fait pour convaincre Jean-Yves Roubin? Vous avez touché son côté obscur?
En fait, ce n'est pas moi qui ai contacté Jean-Yves. Il se fait qu'à partir du moment où le film est dans les mains d'un producteur français, c'est là qu'il prend sa source. Et que leur intention est de travailler avec un producteur belge en coproduction, parce que ce sera plus simple, le réalisateur est en belge, parce qu'on sait que nos équipes techniques sont meilleures que les équipes françaises, parce qu'il y a l'argent des tax shelters qu'on peut gagner pour de multiples raisons. Voilà. Pour de multiples raisons, il est plutôt intéressant de venir tourner en Belgique. À ce moment-là, le producteur français regarde dans les producteurs belges celui qui lui conviendrait le mieux. Pour des raisons sur lesquelles on ne va pas s'apesantir, le producteur avec qui j'avais travaillé pour mon premier film ne pouvait pas être de la partie sur celui-ci, et donc les producteurs français ont cherché une maison de production qui leur convenait pour de multiples raisons, et une des très bonnes raisons était que Jean-Yves Roubin et Fracas avaient fait un film de genre qui était grave, et donc ils ne seraient pas inquiets à l'idée de mettre en scène une créature qui sort d'un calendrier qui s'amuse à décimer la population. Donc voilà, oui, c'était un peu dans son ADN. Mais je ne connaissais pas, si je connaissais Jean-Yves, mais je ne l'avais jamais rencontré. Il n'était pas dans, encore une fois, c'est pas un film de famille pour moi. Voilà, donc c'est vraiment un choix du producteur. À partir du moment où les producteurs décident d'embarquer sur mon scénario, je me laisse faire. Moi. Je demande juste à avoir... Il y a deux postes pour lesquels j'insiste pour travailler avec les personnes que j'aime, et en particulier le montage. Et pour le reste, les producteurs peuvent prendre le coproducteur qu'ils veulent, les équipes du son qu'ils veulent, etc. Tout ça, je me ferai à leur desiderata.
Alors, une dernière question. Unité 42.
Oui.
Où en est-on de la saison 3? Il y a des petits problèmes de Covid, je crois, non?
Oui, oui, je ne sais pas où on en est. Là, je dois honnêtement avouer que...
On va retrouver quand même Sam Leroy.
Peut-être. Et d'un autre côté, donc, c'est... Je ne dis pas que je crains que la saison 3 puisse ne pas se tourner. J'espère qu'elle se tournera. Elle devait se tourner en janvier. Il est question de la tourner peut-être cet été. Ce sera peut-être un peu plus tard. Mais il se fait qu'avec le Covid, qui est pour quelque chose aussi, dans l'esprit des gens, il y a une espèce d'avant-après. Et je ne sais pas si la saison 3 d'Unité 42 est attendue.
C'est ça.
Et il faudra frapper très fort pour récupérer le public qui nous suivait. Mais ça, je n'ai aucun doute. Les auteurs sont capables d'écrire des scénarios très forts. Nous sommes capables, nous, de taper très fort. Mais il ne faudrait pas trop traîner parce que dans 3 ans, une sortie dans 3 ans aurait moins de sens. Voilà, ce sont des séries qui ne nécessitent pas nécessairement 3 ans ou 4 ans de réflexion. Je peux comprendre qu'il y ait 2-3 ans entre chaque saison de Peaky Blinders ou The Boys sur Amazon. Mais pour la nôtre, je pense qu'on pourrait enchaîner tous les 2 ans sans trop de difficultés. Et c'est là que je me dis, tiens, il y a peut-être une urgence à savoir si on le fait ou pas. J'adorerais que ça se fasse. C'est une très bonne série.
Patrick Guédemont, encore merci et bon festival.
Merci beaucoup.